Sous le soleil, il y a les cieux, et sous les cieux, il y a les cils. Sous les cils, il y a les yeux, et sous les yeux, il y a une île. Et sous l'île, il y a le bleu, et sous le bleu, alors, sous le bleu, L-A-U-R-E, sous le bleu, il y a l'aurore. Sous le sable enseveli, sous le sable enseveli, l'or enseveli, sous l'or enseveli, sous le sable enseveli, le sable enseveli, l'or enseveli, sous l'or enseveli, sous le sable enseveli, sous le sable enseveli, l'or. Sous l'aurore, il y a l'aura, et sous l'aura, il et elle. Sous il et elle, il y a la lune, et sous la lune, il y a le miel. Sous le miel, il y a un lit, et sous le lit, il y a le ciel. Sous le ciel, alors, sous le ciel, elle a où elle dort. Sous le sable enseveli, sous le sable enseveli,
FM Rhodes. Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans Euterp 12, Invite ses muses, une émission voulue et présentée et proposée par Jean-François Labitte. Salut Jean-François.
Bonjour David.
Content de te retrouver.
Merci, moi aussi, très content, je te remercie.
Jean-François, nous rappelons que, alors je ne vais pas faire ton CV en entier parce que sinon on va y passer l'émission, hein. Tu es musicothérapeute.
Oui, toujours.
Notamment, et tu exerces alors, ces derniers temps, en particulier dans des établissements variés et aussi au-delà du département de l'Aveyron d'ailleurs.
Ah oui, alors depuis que je suis à la retraite, j'ai des responsabilités au niveau du national pour le développement de la musicothérapie dans des lieux de soins, des structures médico-sociales. Ouais. Mm-hmm. Et je suis aussi, j'interviens à la FAC à Toulouse et aussi je travaille avec des ateliers de musicothérapie de Bourgogne qui ont déjà aujourd'hui formé 480 musicothérapeutes, voilà, avec qui j'ai de très très bons liens et de beaux projets.
Et tu dois avoir aussi de très très bons liens avec notre invité aujourd'hui dans les studios, puisque je disais Jean-François, toi tu es musicothérapeute, et celle que nous accueillons ici à CFM Rhodes aujourd'hui dans cette émission, elle s'appelle Karine Plagnard. Bonjour Karine.
Bonjour David, bonjour à tous.
Oui, vous avez des liens, alors après nous n'allons pas trop loin, tout ne me regarde pas hein, Karine, mais oui... Jean-François, musicothérapeute, vous, Karine, il y a des points communs entre vos activités.
Bah effectivement, puisque moi je suis art thérapeute, mmh. Entre autres maintenant, et donc bah on entend aussi dans art thérapeute cette notion de d'art et de thérapie, comme dans musicothérapie également.
Mmh. Ouais. Alors Karine, oui, vous êtes art thérapeute, on va expliquer de quoi il s'agit bien sûr dans cette émission et tout l'intérêt peut avoir ce type de thérapie, et vous êtes aussi en parallèle ou en même temps coach professionnel.
C'est ça.
C'est un lien avec l'art thérapie, parce que moi, coach professionnel, je sais pas pourquoi, je pense à des trucs style, je sais pas, vous entraînez des joueurs de foot, tu vois, non.
Alors, je pourrais,
ah
effectivement,
oui, d'accord,
mais c'est pas, c'est pas le cœur de mon métier, en tout cas.
Oui.
Mais dans mes coachs professionnels, en fait, c'est une autre forme d'accompagnement que la thérapie,
oui.
Puisque là, on va être plus sur du développement de potentialités, en fait, qui sont présents dans l'individu.
D'accord.
Ouais.
Okay, très bien. Vous exercez ici, vous êtes Aveyronnaise, ruthénoise, au moins pour le boulot, ou vous êtes de passage en Aveyron?
Alors, je n'ai pas de passage, je suis bien ancrée en Aveyron,
ah.
mais maintenant, je suis en mesure de travailler en fait au niveau national et même international aussi. C'est aussi l'intérêt du télétravail
oui.
et du nomadisme digital aussi. Ouais.
Bien sûr.
Même si ça ne remplace pas évidemment la dimension présentielle en chair et en os.
Ah bah, j'imagine, et notamment dans vos activités,
ouais.
la vôtre en particulier. Bon. Jean-François, tu as eu envie d'inviter aujourd'hui Karine Plagnard, donc art thérapeute et coach professionnel, pour découvrir, j'imagine, en partie ses activités, son travail, mais peut-être pas seulement.
Non, et en fait, le morceau d'introduction
oui.
A quelque chose à voir sur le plan symbolique avec l'aura qu'a Karine, en fait, parce que c'est un morceau qui se caractérise par une prégnance de la pulsation, et je trouve que ce qu'on partage avec Karine en commun, c'est l'intérêt pour le vivant et comment on peut dispenser et nourrir le vivant. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on partage, et d'ailleurs on a milité dans une asso pour justement veiller à ce que des gens hospitalisés puissent continuer à créer. Donc après le vivant, il y a aussi la thématique de la création. Et dans ce morceau, il y a donc cette pulsation qui est très vive.
Jean-François, qu'est-ce que t'appelles une pulsation très vive?
La pulsation, on entend les percus qui sont vraiment une pulsation qui sont vraiment devant dans l'enregistrement,
d'accord.
et qui sont typiquement, qui représentent typiquement la pulsation cardiaque et le vivant. Et après, dans ce morceau de Camille, il y a aussi, alors ça c'est un clin d'œil à Karine, il y a ce côté, ça s'appelle « Danse, marche sur le sable
mmh. »,
et ça invite ce côté nomade qu'elle a évoqué tout à l'heure, où elle peut aller au-delà de la France, et je sais en plus qu'elle a un attrait particulier pour l'Afrique du Nord, notamment, si ma mémoire est bonne, entre autres. Voilà, et après, l'autre clin d'œil, c'est aussi que Karine a beaucoup travaillé, alors ça c'est quelque chose qui me touche beaucoup, à permettre à des personnes hospitalisées en souffrance, elle leur a permis d'écrire des textes magnifiques.
Ah d'accord.
J'ai entendu d'ailleurs que j'ai participé à des restitutions. Et du coup, Camille, elle écrit aussi un très beau texte aussi dans cette chanson. Donc
alors,
voilà, tout ça, c'était un peu pour symboliser Karine, en fait.
Alors ça répond un petit peu à la question que j'allais poser à Karine maintenant, mais je vais lui poser quand même ce que tu viens de nous dire, Jean-François. Oui, Karine Plagnard, donc vous êtes art-thérapeute. Est-ce qu'on a besoin d'être artiste pour pratiquer l'art-thérapie? Est-ce que vous l'êtes? D'ailleurs, artiste, oui, puisque apparemment, au moins, vous écrivez déjà.
Alors effectivement, j'écris et puis je suis passionnée par les arts vivants, le théâtre, la danse, beaucoup le clown aussi également.
Ouais.
Et ce sont des véhicules que j'utilise pour travailler avec les personnes. Alors être artiste, en tout cas, il faut être dans un processus de création artistique pour, j'allais dire, pouvoir prétendre à être art-thérapeute, parce qu'il faut comprendre ce qu'il en est des mécanismes et du processus de création et comment ça s'enclenche et comment on peut le faire se déployer chez l'autre en fait.
Alors vous, votre cursus, vous êtes venu à la thérapie par l'art ou vous êtes venu à l'art par la thérapie?
Ben c'était presque, j'ai l'impression que c'était presque concomitant en fait. Alors bon, je suis pas née avec ça complètement, mais la dimension artistique, je l'ai depuis que je suis petite, puisque j'ai pratiqué le théâtre, la danse très tôt, et l'écriture aussi, dès que j'ai pu apprendre à écrire. Et après, l'intérêt pour les mécanismes psychiques est arrivé vraiment très tôt. Et après, tout le sens que j'ai pu donner, moi, à une partie de ma vie avant d'être art-thérapeute, ça a été comment je peux mettre en lien ces deux passions finalement.
La musicothérapie, excuse-moi Jean-François, question bête, hein, mais bon, je suis un peu spécialiste. La musicothérapie, est-ce qu'elle est incluse dans l'art-thérapie ou pas?
Alors écoute, il y a des discussions incessantes depuis un quart de siècle.
D'accord, okay.
Il se trouve que moi j'ai une position très, très arrêtée. Mmh. Si tu veux, l'art thérapie pour moi c'est un océan de techniques, et je trouve que Karine le dit bien, si tu veux, c'est qu'il existe des leviers artistiques qu'on peut utiliser dans le cadre d'un processus thérapeutique. Et il se trouve que moi je défends l'idée que la musicothérapie n'est pas dans l'art thérapie. Parce ouais. qu'il m'est arrivé de rencontrer des musicothérapeutes qui avaient fait une semaine de formation dans le cadre d'un DU d'art thérapie, hein, qui se prétendaient donc dans les institutions musicothérapeutes. C'est comme si moi, par exemple, j'avais fait deux jours de théâtre et que je dise je suis art thérapeute, j'ai une expertise dans
D'accord.
le théâtre. Mmh. Donc moi, je revendique l'idée que la musicothérapie est une discipline à part entière. En plus, en musicothérapie, eh ben, tu passes quand même deux ans au conservatoire. Mmh. T'as tout un travail, tu travailles que sur la musique et la psychopathologie. Et donc, du coup, voilà. Et moi, je considère que dans un DU d'art thérapie, on peut pas être un excellent musicien, concertiste, on peut pas non plus être un excellent homme de théâtre, un excellent. Donc, je trouve que Karine aussi le dira mieux que moi, mais il faut à un moment donné s'essayer à des expressions artistiques et pouvoir les utiliser après comme levier d'une relation thérapeutique. Voilà, en gros, ce que je dirais.
Karine opine. Alors, d'accord avec toi, donc le débat là entre vous deux, il y en a pas, vous avez l'air plus ou moins d'accord.
Non, je pense qu'on est d'accord. Je pense que c'est vraiment deux disciplines à part entière en plus. Mmh. On le voit parce qu'en fait pour moi il y a les vrais art thérapeutes et puis il y a les art thérapeutes que je qualifierais pas. Mais je pense que pour être art thérapeute, il faut s'être essayé déjà à la mise en œuvre de la créativité, parce que ça c'est vraiment quelque chose de particulier.
Ouais.
C'est un peu comme si je disais. Je suis maçon, mmh, et dans ma vie, j'ai touché deux pierres et j'ai fait une fois du ciment.
D'accord, oui, je vois.
Voilà.
Mmh. Ouais, il y a le côté pratique, opérationnel.
Je pense qu'il faut avoir été confronté à ce que ça veut dire être devant une feuille blanche, exprimer quelque chose, c'est-à-dire écrire un texte, ou faire, ne serait-ce, je sais pas moi, du graphisme ou de la peinture. Eh ben, quand on s'est confronté à ça, déjà, on voit que c'est pas si facile.
Mmh. Oui, moi c'est pareil. Moi, je me dis art thérapeute par l'écriture, enfin en écriture et en art vivant, parce que ce sont vraiment des arts que je maîtrise. J'en maîtrise la technique, je maîtrise ça. Mais je vais pas me dire art thérapeute en art plastique, parce que je ne maîtrise pas suffisamment la technique pour amener la personne dans son propre processus de création en art plastique, pour l'amener suffisamment loin pour que ça ait une vertu thérapeutique. Et je pense, voilà, je suis assez d'accord avec toi sur ça. Mmh. Ouais.
Alors l'art thérapie, excusez-moi d'être un petit peu matériel, hein, Karine, l'art thérapie, on commence à voir de quoi il s'agit, mais moi ce que j'ai envie de savoir c'est qu'est-ce que ça peut traiter, qui ça peut aider, ça s'adresse à qui ou à quel type de situation?
Alors moi je vais parler là pour mon expérience, parce que j'ai passé près de 20 ans en fait en psychiatrie, où là j'ai pu accompagner des personnes qui souffraient de tout type de pathologies psychologiques. Alors ça peut aller de la dépression à des problématiques d'addiction par exemple, aussi à certaines formes de psychose. Avec des adultes plus particulièrement, même si j'ai déjà travaillé avec des enfants aussi. Mais sinon, l'art thérapie peut être proposée en hôpital général, dans des soins palliatifs. Ça peut être là où il y a ces besoins. Il y en a aussi dans des prisons, par exemple, aussi.
Alors là, vous m'évoquez je caricature un petit peu, des milieux où l'échange n'est pas a priori facile. Donc on se dit, oui, peut-être par l'intermédiaire d'une forme artistique, on peut instaurer un contact, nouer une relation. Mais pour quelqu'un comme moi, qui a priori, d'ailleurs je ne vais peut-être pas très très bien, mais enfin bon, quelqu'un voilà, qui n'est pas dans un établissement pour des troubles sévères, l'art thérapie, ça peut avoir un intérêt aussi?
Oui, bien sûr, ça peut avoir un intérêt dans la mesure où ça va mettre en mouvement quelque chose de l'inconscient qui va permettre peut-être à vous, si vous venez, d'enclencher des choses qui vous permettront de vous sentir peut-être encore mieux que ce que vous êtes, ou résoudre quelques problématiques du présent, par exemple
là, concrètement, c'est des soucis qu'on a de boulot, des soucis de famille, conjugaux,
ça peut être aussi un deuil difficile à faire, par exemple. Une maladie, ça peut avoir ces intérêts-là aussi. Ouais,
d'accord. Oui. L'art thérapie, donc c'est une thérapie, donc on n'est pas sur un coup de baguette magique. Hein, ça fonctionne comment? Déjà, vous rencontrez les personnes dans un lieu particulier, c'est au domicile, je dis n'importe quoi, un lieu neutre. C'est sur je sais pas, des rencontres régulières toutes les semaines, tous les mois, pendant un an, 10 ans, parce qu'en psychanalyse, ça peut, il y a des choses qui peuvent durer des années et des années. Comment ça fonctionne un peu?
Mais là, c'est, ça s'adapte en fait à chacune des personnes, parce que bah, évidemment, chaque relation est unique, chaque problématique est unique. Il y a des gens que j'ai pu voir sur quelques séances très simplement et qui après ont dit bon bah c'est bon, j'en ai plus besoin. Ouais. Et d'autres personnes pour d'autres pathologies par exemple, bah que j'ai pu accompagner quand j'étais en psychiatrie pendant près de 10 ans peut-être aussi. Il y a pas une norme, c'est vraiment en fonction de chacun, au rythme de chacun, et c'est aussi l'intérêt de proposer ça, quoi. Et donc ça peut être toutes les semaines ou ça peut être tous les 15 jours. J'ai même eu des personnes qui venaient en fonction du besoin, donc c'était tous les mois, tous les 3 mois parfois aussi. Donc c'est vraiment vraiment adaptable.
Et c'est des séances collectives ou individuelles?
Il y avait les deux.
Ah, les deux. Okay. Ouais. Les deux ont un intérêt, parce que c'est vrai, le collectif, ouais, ça peut avoir un intérêt de se confronter, de rencontrer d'autres gens, travailler ensemble, bon voilà. Et le particulier, ça peut avoir aussi d'autres intérêts.
Ouais, c'est ça. Puis la dimension collective amène vraiment autre chose aussi. Mmh. Elle va mobiliser autre chose. C'est aussi comment chacun prend conscience qu'il a sa place au sein d'un collectif aussi. Donc on va travailler peut-être davantage sur tout ce qui est confiance en soi, affirmation de soi, prise de position finalement dans le monde. Et voilà, c'est montrer aussi et sentir que chacun on a sa place, on a une mission aussi peut-être sur cette terre. Et ça permet ça aussi, cette dimension collective.
Allez, on va repartir en musique pour un second titre dans cette émission. Et je précise d'ailleurs, Jean-François, ouais, puisque tu as évoqué la première, c'est toi qui viens avec une petite clé des fichiers pour nous partager avec nous cette musique. Le premier, c'était Camille, tu l'as dit, Sous le sable, en introduction de cette émission de Terpe 12, Invite Sému sur CFM Rhodes. Le deuxième, j'ai le titre sous les yeux, mais je suis pas sûr.
Donc je te le dirai après, David, parce que j'ai plutôt envie que Karine l'écoute d'abord, et après je dirai ce que c'était.
Ah, ça va être une surprise pour Karine.
Et je continue. Les trois morceaux que j'ai choisis, c'est tous des morceaux en lien avec, enfin, qui peuvent lui parler ou qui me permettront de parler d'elle en tout cas.
Alors, Vous êtes bien, oui, sur CFM Rodez, il n'y a pas de souci, vous n'en faites pas, vous inquiétez pas, tout va bien. Terpin 12 invite Sémus, c'est notre émission, une émission proposée par Jean-François Lavitte, musicothérapeute. Son invité aujourd'hui, c'est Karine Plagnard, art-thérapeute et coach professionnel. Alors Jean-François, tu annonçais une surprise pour Karine, mais elle doit être très intérieure comme personne, parce que j'ai pas vu. La surprise, c'est surtout pour moi, si tu veux, la musique. Alors Karine, qu'il y a eu dû avoir une réaction en vous que j'ai pas spécialement décelée avec cette musique qu'on vient d'entendre?
Non, mais ce qui attise ma curiosité, c'est de savoir justement pourquoi Jean-François a choisi. Mais non, je ne sais pas du tout.
Ah ouais, d'accord. Il est cachotier, ce Jean-François.
J'ai ce morceau est un morceau d'un compositeur anglais qui s'appelle David Block.
Ah, ça commence bien.
Sa spécialité, et là, je suis sûr que de suite, ça va éveiller chez Karine bien d'intérêt. Sa spécialité est de composer des musiques pour accompagner la danse Le Buto. Cette danse japonaise que j'ai vue danser par Karine à la menuiserie, inspirée il y a quelques années, c'était pour Artefact, qui est, si tu veux, l'intérêt qu'a cette danse en particulier, en tout cas de ce que moi j'en ai lu et ce qui m'a intéressé, c'est qu'elle a inspiré beaucoup du bouddhisme, c'est-à-dire ce travail un peu méditatif, mais d'être à l'écoute de la musique, la pulsation musicale. Et aussi, elle est inspirée d'une croyance ancestrale au niveau japonais. Donc, c'est quelque chose de très... qui a une profondeur. Et je me rappelle qu'une fois, j'ai vu danser Karine dans le cadre d'un spectacle à la menuiserie où j'ai vu aussi une danseuse japonaise danser ça. Et j'ai vu ce travail corporel d'être à l'écoute de ce qui se joue musicalement parlant. Et aussi ce corps qui prend le temps d'être dans le mouvement. Donc c'était le buto.
Le buto, ouais, danse traditionnelle japonaise qui doit remonter on ne sait pas trop quand. Et bon, tu vois, moi en écoutant, je t'aurais plutôt dit oui, c'est de l'Indus allemand 2023, tu vois. Bon. Donc c'était du buto, Karine. Comment on danse sur le buto? Parce que j'ai déjà dû voir ça à la télé, mais c'est rare et c'est particulier quand même. Hein.
Alors ce n'est justement pas une danse traditionnelle.
Ouais. Ah bon?
Non, parce que c'est une danse qui a été créée après la première, la deuxième guerre mondiale.
Ah bon,
puisque, oui, parce que justement, c'est les danseurs en fait voulaient s'affranchir des carcans des danses traditionnelles justement, voulaient aussi danser la souffrance du peuple qui avait vécu Hiroshima.
Ouais.
Et parce qu'en fait, le buto, c'est la danse des ténèbres. Et là, contrairement justement à une danse traditionnelle où là, il y a vraiment, c'est extrêmement codifié. Oui. Donc il y a une chorégraphie très très précise à laquelle le danseur doit se plier. Là, au contraire, le mouvement vient de l'intériorité du danseur.
D'accord.
Donc en fait, on part d'une posture de vide et on fait émerger le mouvement en fonction de ce qu'on ressent, en fonction de l'état, en fonction de ce qui est, en fonction effectivement de la musique aussi. Et à partir de là, émerge le mouvement. Et je trouve que le buto, en plus, c'est extrêmement intéressant parce que c'est une très très belle métaphore d'une psychothérapie. C'est-à-dire qu'on part de la ténèbre, des ténèbres, et on va et on danse alors vers la lumière. Et on va danser aussi toutes les souffrances. On peut, moi, il m'est arrivé même dans des stages de danser. Alors le maître nous disait de danser sur des charniers, de danser la maladie, de danser la mort, tout en tenant aussi une rose qui pouvait bourgeonner et éclore malgré tout. Et c'est là aussi pour moi une très belle métaphore de la psychothérapie, parce que le vivant est toujours là. Le vivant est au cœur de l'humain, le vivant est là. Et c'est en thérapie ce qu'on vient activer, cette notion de vivant, de ressources internes. Et moi, ça me touche beaucoup.
Ouais. Bah, écoutez, merci beaucoup, parce que moi, j'en apprends tous les jours. C'est ça que j'adore en faisant de la radio. Hein. Aujourd'hui, j'ai notamment appris ce que c'était le buto, que j'imaginais un truc du Moyen-Âge. Et non, 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 c'est carrément en opposition que ça s'est construit. Non, mais merci beaucoup.
C'est intéressant ce que dit Karine aussi, parce que ça s'inscrit vraiment dans une pensée contemporaine. Alors, il y a un point que je voudrais relever, parce que c'est vraiment
vas-y,
ça
vas-y.
Aussi. Et là, c'est une passerelle avec la musicothérapie. C'est que Karine, souvent, je me plais, si tu as bonne mémoire, David, à rappeler que dans les processus créatifs, ce qui m'intéresse, c'est de partir du chaos, si possible, du chaos et même du bordel. Souvent, je dis aux personnes âgées, on va travailler sur le bordel sonore pour après l'organiser, pour faire du musical et après, éventuellement, peut-être de la musique. Et je trouve que c'est chouette que tu rappelles ça aussi. Il y a cette démarche aussi. Qu'ont les contemporains, c'est-à-dire de partir des fois de quelque chose qui, au départ, est un son brut. Et d'ailleurs, on l'entend bien dans cette création aussi.
Oui.
Il y a quelque chose qui est assez brut, mais par contre, il y a toujours une pulsation, cette espèce de pulsation de vie qui, elle, n'est pas brute, et elle est bien carrée et elle accompagne tout le déroulement du processus.
Alors, Karine Planière, on le rappelle, vous êtes art-thérapeute et coach professionnel, on est beaucoup sur l'art-thérapie. Donc, vous, vos arts de prédilection sur lesquels vous travaillez, c'est, vous m'avez dit, la danse, donc là, le bouton, on voit très très bien. Vous m'avez dit quoi d'autre, excusez-moi, hein, le clown?
Alors, je suis clown aussi,
ah, oui,
et comédienne, et une autre passion, et vraiment, c'est l'écriture. Je suis
un peu
obsédée de l'écriture et de la linguistique, ouais. La sémiotique aussi.
Oh là là, d'accord. Ah oui, donc vous avez bien repris sur le bouton, là. Ah oui, là, il n'y a pas de problème. Très bien. Du coup, cette forme de thérapie, l'art-thérapie, j'imagine que les personnes qui s'y prêtent, donc vous les faites danser. Ils ne sont pas là pour vous regarder danser, et peut-être derrière, on va avoir envie de suivre. Comment ça fonctionne?
Non, en fait, moi, ce que je fais émerger, ça va être le mouvement. Alors, plus que le mouvement corporel, même si le corps est extrêmement présent et il est même fondamental, hein, pour dans les thérapies, quelles qu'elles soient, de toute façon, ça va être le mouvement psychique. Donc, c'est en fonction de la rencontre qui se crée entre nous, dans cet entre-deux, à un moment donné, quelle proposition va émerger pour que ce mouvement puisse se faire dans l'inconscient, dans le psychisme de la personne qui est avec moi, là, dans cet instant. Et donc, c'est en fonction de ce que la personne me dit, par exemple, je vais lui proposer, par exemple, ça peut être un mouvement, ça peut être un travail d'écriture spécifique, ça va être de faire intervenir aussi un geste avec un feutre, par exemple. Et à partir de là, à partir de ce point de départ, quelque chose se déploie, se déplie, et permet de créer une œuvre, en fait, de créer une production artistique. Et je dis bien artistique parce que on est dans cette dimension donc d'art-thérapie.
Ouais, ouais.
Et l'objectif est de faire vraiment aboutir ce processus créatif pour produire une œuvre qui soit aussi aboutie que possible.
D'accord, donc l'art et la création artistique n'est pas un prétexte, c'est là aussi l'aboutissement.
L'objet. C'est l'aboutissement, oui, c'est vraiment, c'est plus qu'une médiation, là, on est dans... C'est le tiers, en fait, un tiers, cette production qui fait tiers entre le thérapeute et le patient. Et donc, on utilise ce qu'on appelle la stratégie du détour, la stratégie de l'ellipse, c'est-à-dire que la personne ne parle plus en je, J-E, mais en il, elle. Et du coup, le mouvement thérapeutique est même souvent beaucoup plus rapide qu'une psychothérapie traditionnelle, justement, grâce à ça, en fait.
Tiens, excusez-moi, encore une question très utilitariste, ou très, voilà, bon. Comment vous dites qu'une... ces formes de thérapie, d'art-thérapie, avec telle ou telle personne qui est avec vous, se passe bien? Fonctionne.
Là, vous me posez cette question et j'ai devant moi, en fait, il y a plein d'images qui me reviennent justement des personnes que j'ai pu accompagner dans ces moments-là. Et c'est, je vois que ça fonctionne quand je sens, je perçois que la posture de la personne va changer. Il y a les yeux qui se remettent à pétiller. Il y a quand je sens, il y a rien qui me fait plus vibrer que ça. Moi, c'est de sentir comment ce vivant se réanime,
se réveille, comment on se réveille.
Oui, et puis de sentir aussi ce qui se passe au niveau du psychisme. Là, tout d'un coup, la personne va percevoir sa vie, va porter un autre regard sur sa vie, sur les situations. Et ça, c'est... Moi, je trouve ça magnifique, en fait. Et ça se voit, ça se perçoit tout de suite, en fait.
Même chose pour toi, Jean-François, dans tes disciplines, la musicothérapie en particulier?
Eh bien oui, ce que dit Karine, moi, par exemple, ouais, ce que je dirais, c'est aussi souvent, ce qu'on voit, c'est ça, c'est qu'il y a quelque chose qui se réveille ou qui se révèle. Et ce qui est troublant, c'est qu'il y a une notion de verticalité. Moi, par exemple, je trouve qu'on le voit très, très bien, ça... avec des personnes atteintes de maladies neurodégénératives.
Ouais.
Par exemple, je prends des personnes âgées, par exemple démentes, Alzheimer, où vraiment, quand tu arrives dans un groupe, tu vois ces gens pliés en deux, le regard vague et tout ça. Et dès que tu commences à faire de la musique, il y a cette espèce de curiosité. Et hier, j'ai vécu par exemple un endroit, il y avait une dame qui était vraiment très avancée dans la maladie d'Alzheimer, ce qui a été touchant. Puis j'adore travailler là-bas parce qu'il y a un psychologue toujours avec moi. Et d'un coup, on la voit battre la pulsation au pied. Et d'un coup, être interpellé. Et après, le psychologue me dit, si tu pouvais jouer un truc connu, juste pour voir. Et là, je joue un morceau archi connu. Et là, elle se met à le chanter.
Ah ouais.
Alors que juste avant, tu dis bonjour madame, elle n'a jamais pas
dit
bonjour monsieur.
Bien sûr,
parce qu'elle est... Et ça, c'est magique, hein, c'est vraiment magique. Ouais, j'ai un autre exemple aussi. J'ai travaillé à une époque avec en musicothérapie avec des dames. C'était un groupe de dames dépressives. Je pense déjà raconter ça.
Ça devait être gay. Non, je déconne.
Où j'ai regretté de pas avoir fait des photos avant après. Parce que ces dames, elles arrivaient, elles avaient le visage toujours tombant, déchirant. Ça va pas et tout ça. Et quand elles repartaient, le fait d'avoir travaillé sur la voix et le souffle, elles avaient un visage rayonnant, souvent souriant, me disant ah mais merci, on a passé un bon moment. Ouais. Et ça, c'est la magie d'une médiation, vraiment.
Et ça n'a pas de prix. On arrive bientôt au terme de cette émission. D'ailleurs, Terre Pedouze invite Sému sur CFM Rodez qui va se conclure en musique. Et tu vas dire un mot sur le titre que tu as envie de partager une nouvelle fois avec nous aujourd'hui, Jean-François. Mais avant ça, Karine Plagnard, pardon, art thérapeute et coach professionnel, vous avez expliqué rapidement, on est dans une émission de radio, mais votre métier, son intérêt, ses pratiques, comment on fait pour se rencontrer? Enfin, je ne parle pas que de moi personne, mais voilà, vous êtes joignable. Mais
sinon, je reviens à la radio, il n'y a pas de souci, j'adore. Donc,
ce serait bien volontiers. Mais sinon, ceux qui nous écoutent qui ont peut-être envie de vous rencontrer, de voir, de découvrir l'art thérapie, comment on vous retrouve?
Alors, j'ai une page Facebook avec mon nom. Donc là, il y a la possibilité de laisser un message, même sur Messenger, par exemple. Voilà, c'est peut-être ce qu'il y a de plus simple. Ou sur LinkedIn aussi.
D'accord, donc c'est Karine avec un K.
Ah oui, je tiens.
Karine classique, moi j'ai connu que cela. Hein. Et Plagnard, c'est Plagnard. Voilà, sur le célèbre réseau social. Très bien, pour retrouver toutes vos coordonnées, puis échanger directement peut-être avec vous. Sinon, niveau actualité.
Alors, la prochaine actualité, en fait, c'est... je vais en profiter là. Merci David de me laisser cette opportunité. D'ailleurs, de proposer en fait un stage donc que nous organisons avec Sylvie Lacaze-Masmonteil qui est professeure de yoga et spécialisée en Ayurveda. Donc que ce soit en nutrition ayurvédique ou massage ayurvédique aussi, et on organise donc un stage que on a eu envie d'appeler Éloge de la douceur, parce que je crois qu'on a tous besoin de cette douceur actuellement.
Oui, ça fait envie.
Et donc c'est sur un week-end, donc ça sera au mois d'avril, donc le mois prochain, du 21, alors c'est un vendredi, à partir de 17h jusqu'au dimanche 17h. Et là, donc, nous convions en fait les personnes intéressées pour vivre pas mal de belles expériences, à la fois artistiques, corporelles, nutritives aussi, au sein de la nature. Donc ça se passe au gîte du Brugas, dans le sud d'Aveyron, à Saint-Juéry. Ouais.
Et là, vous serez dans ce cadre-là pour de l'art-thérapie, c'est-à-dire que vous proposez...
Alors, ce ne sera pas de l'art-thérapie, parce que là, on ne va pas faire de la thérapie, mais en tout cas, ça sera pour proposer effectivement des pratiques artistiques et des pratiques corporelles. Alors, il y aura aussi du yoga, de la méditation. Donc, ça sera assez riche, intense, parce que je pense que les personnes vont pouvoir expérimenter pour se faire du bien, pour renouer aussi avec leurs fondamentaux. Et puis prendre plaisir et de façon aussi durable. Elles vont pouvoir venir recontacter des choses qui sont importantes pour elles et pouvoir modifier peut-être des choses après dans leur vie pour se sentir aussi bien que possible. Donc ça, c'est du 21 au 23 avril. Et, alors, il reste encore quelques places. Il faut s'inscrire assez rapidement. Il y a l'info qui est sur les réseaux sociaux aussi. Donc voilà, il y a possibilité de nous appeler pour avoir plus de renseignements.
D'accord. Les réseaux sociaux, c'est notamment votre page Facebook perso dont j'ai donné le titre.
Ouais. Voilà, et puis celle aussi de Sylvie Lacaze-Masmonteil.
C'est plus long à taper, c'est plus compliqué. Donc j'irai à moi et voir Karine.
Sinon, vous tapez éloge de la douceur avoir.
Je vais pas taper éloge de la douceur, je vais tapoter.
caresser éloge de la douceur. Voilà.
Bon. Ouais. Et ben merci beaucoup.
Mais merci beaucoup,
Karine,
David. Merci.
Très agréable, très intéressant.
Jean-François aussi. Je suis très ému par tout ce que tu as pu dire et me faire partager aussi.
Avec plaisir.
Et merci beaucoup, Jean-François, tout à fait, de nous faire découvrir à chaque fois des personnalités, des invités, des pratiques un petit peu différentes. Sur notre département de l'Aveyron. On se donne rendez-vous dans un mois. Enfin, si tu veux, tu reviens avant, Jean-François. Il n'y a pas de problème. La porte est ouverte.
Oui, alors je voulais dire que si... j'y pensais tout à l'heure parce que tu me disais que finalement, ça faisait un moment que ce n'était pas vu, mais j'étais tellement pris. Nos agendas étaient tellement compliqués.
Je sais, oui.
Et je voudrais dire juste deux mots sur le morceau de conclusion de l'émission.
Ah oui, sur lequel on va écouter, bien sûr, oui.
Parce que j'y tiens, en fait, parce que déjà, c'est quelqu'un pour qui j'ai une profonde admiration et un profond respect. Et avec lequel j'ai une immense proximité, c'est-à-dire ce travail sur le souffle, j'arrête pas de répéter l'intérêt de travailler sur le souffle et la respiration. Et là, c'est le souffle, la respiration et la voix. Et pour moi, le grand maître international de ça, qui nous donne vraiment des leçons, c'est Bobby McFerrin. Et comme je sais que Karine aime travailler la voix, je me suis dit que je pouvais pas ne pas terminer l'émission par un tout petit extrait que j'avais enregistré à Jazzy de Marcillac, d'ailleurs, où il vient presque chaque année.
Ouais.
Et en plus, il est Bobby McFerrin, c'est quelqu'un de très intéressant parce que c'est un grand pratiquant de la méditation et un grand pratiquant du yoga. Et on voit vraiment, d'ailleurs, on va l'entendre dans le morceau, comment le souffle ou les souffles sont vraiment très présents.
Merci Jean-François.
Avec plaisir.
Merci Karine.
Merci beaucoup.
So good, so good that I got you. I feel good, I knew that I would. I feel good, I knew that I would. So good, that I got you.
Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do